En fait, ça porte davantage sur l'imaginaire de l'histoire, moins sur les histoires imaginaires. C'est-à-dire les histoires imaginaires, j'en ai parlé en guise de conclusion, mais je vous renseigne déjà sur le défi qui est tout petit, mais qui est quand même un petit défi, oui, un défi que j'ai souhaité relever. C'est-à-dire, ce que j'ai aimé dans la proposition, mais vraiment aimé dans la proposition, c'est de penser l'idée de prisme à propos de l'imaginaire. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est justement de faire jouer ce prisme à propos des récits de mémoire, donc des récits de l'histoire. Et donc, d'essayer de voir dans quelle mesure l'imaginaire intervient. Or, c'est enfoncer une porte ouverte. Nous savons tous, parce qu'on en a parlé déjà ce matin et qu'on en est tous convaincus, que l'imaginaire intervient toujours, puis que c'est la voie incontournable de l'intelligence parce que ça en fait partie. Donc, j'enforce des portes ouvertes et je place cette communication sous le chapeau des petites études, un peu de manière scolaire, mais quand même. Alors, je me lance. Il peut paraître hasardeux de mettre en rapport l'imaginaire et l'histoire et de le faire en associant cette dernière aux histoires imaginaires. Cette mise en rapport qui a trait à l'imaginaire en histoire, pour indiquer encore davantage la relation dynamique qui les unit, laisse à penser la possibilité que l'histoire, le récit des hommes, tourne plus ou moins le dos à la vérité dont on sait qu'elle est changeante et qu'elle ne décrit que certains états de monde. L'ensemble des historiens a, à une époque, partagé un même vœu, que l'histoire fasse le récit d'événements vrais et, à la condition qu'ils en reconnaissent même la participation ou l'exercice, que ce récit soit lui-même empreint de vérité, voire d'objectivité. Dans l'esprit de ces historiens, la vérité associée aux événements n'agirait pas sous le pli de l'imaginaire, de l'imagination ou de la subjectivité. Paul Ricoeur a distingué, pour en discuter, deux visées, deux intentionnalités. L'une, celle de l'imagination, est dirigée vers le fantastique, la fiction, les réels, le possible, l'utopique. L'autre, celle de la mémoire, vers la réalité antérieure, l'antériorité constituant la marque temporelle par excellence de la chose survenue, du souvenu en tant que telle. La tendance est ainsi de conférer à l'imagination un caractère trompeur, de l'associer à un pathos peu justifiable, même lorsqu'elle est assortie au domaine de la fiction, dont l'utilité est par ailleurs plus ou moins reconnue, tandis que le récit historique est, pour certains, placé sous l'unique sceau de l'objectivité. Cette dernière paraît toutefois soumise à une visée imaginaire, dans la mesure où elle constitue moins une vertu qu'un travail, et par conséquent, une attente par rapport aux résultats convoités. Cela se conçoit pertinemment au moment où le même chercheur, Paul Ricoeur, nous dit « Nous attendons de l'historien une certaine qualité de subjectivité, non pas une subjectivité quelconque, mais une subjectivité appropriée qui convient à l'histoire. Il s'agit donc d'une subjectivité impliquée par l'objectivité attendue. » Ce travail, cette attente, cette implication, incite à discernement ou, selon le terme de Ricoeur, à jugement d'importance. De même qu'à une capacité de témoigner de tout cela sous une forme narrative. Soit en mettre en évidence l'exercice de discernement auquel il se prête, l'historien serait appelé à mettre en scène le champ historique, dirait Paul Venn, d'où l'événement est tiré, et il devrait le faire en accordant à l'un, le champ, et à l'autre, l'événement, la valeur historique qui leur convient. Mais puisque les événements n'ont pas la consistance d'une guitare ou d'une soupière, ainsi que le note avantageusement Paul Venn, l'historien devra prendre en compte les valeurs qu'il a faites siennes au terme de l'application de jugement d'importance, et témoigner justement, c'est-à-dire d'une manière qui est juste, de leur implication. Même étant de leur époque, ou surtout parce qu'elles le sont, ces valeurs qui la fait tiennent ne répondent pas aux critères de l'objectivité. L'apparence d'objectivité, qui est toujours difficile à associer aux valeurs, donc l'apparence d'objectivité, se reconnaît bien plutôt au fait qu'elles sont offertes en partage au plus grand nombre. Les valeurs historiques ont autrement dit un caractère culturel, en sorte que tel historien qui fait partie de ce plus grand nombre à une époque donnée peut tenir pour un événement à caractère historique ce que tel autre historien ignore, ou pire, ce qu'il feint de connaître. Je me suis perdue. L'effet de l'héritage culturel sur l'historien et sur tout autre écrivain, et le fait en particulier que les valeurs auxquelles ils s'associent passent le plus souvent inaperçues, font en sorte que ces dernières sont pour eux-mêmes ou pour tout observateur peu propices à réflexion. Pour sortir de l'historisme ou de l'impasse des jugements d'importance effectués à partir de classes culturelles, il suffit, nous dit Paul Venn, de poser que tout est historique. Si on le pousse ainsi jusqu'au bout, l'historisme devient inoffensif. Il se borne à constater une évidence. Il arrive à tout instant des événements de toute espèce et notre monde est celui du devenir. Il est vain de croire que certains de ces événements seraient d'une nature particulière, seraient historiques ou constitueraient l'histoire. S'il paraît méritoire le fait d'admettre que la considération d'événements ou de faits à caractère historique dépend de l'étroitesse des mailles de l'historisme en vertu de laquelle étroitesse, tout commanderait d'être retenu ou conservé dans le tamis de l'histoire, d'autres aspects de la question invitent à réflexion. Pensable, mais difficilement applicable, le vœu formulé par Venn ne saurait exclure l'application de sacrements mémoriels qui, étant l'apanage de l'histoire, tend aussitôt à écarter le champ de l'histoire, de même que la tenaille de l'imaginaire. La tenaille ou les tenailles de l'imaginaire permettent par définition de saisir quelque chose, de serrer, d'arracher, ou pour le dire de manière moins brutale, de sortir de la latence ou de l'oublier, des événements qui, sans le récit, n'auraient pas été connus, soumis à l'exercice de la mémoire et ainsi promis à un devenir. Toujours afin de mettre à mal d'anciens critères de l'historisme et en conséquence, certaines des valeurs qui les justifient ou les sous-tendent, Paul Venn propose bon nombre d'exemples dont les tailleurs sous Frédéric II. Il les arrache du lit de l'histoire en se demandant si, en tant qu'êtres singuliers, ils sont susceptibles d'avoir quelques valeurs historiques. L'exemple est par lui-même singulier au vu de la culture de l'histoire. Cette fonction, avoir été tailleur et à une certaine époque, ouvre la voie à l'imagination pour qui cette fonction ne fait pas partie de celles qui lui sont culturellement connues. Et il en aurait été ainsi même si ces tailleurs avaient été nommés ou décrits. Cet exemple permet toutefois de constater que la perception des oubliés ou de l'oublié dépend généralement de l'effectuation ou de la recollection, dirait Ricoeur, d'éléments situés en périphérie des faits et des faits plus connus. Le 18e siècle, des méthodes de fabrication des vêtements, etc. À défaut de mémoire, ou grâce à ses vertus partielles et partiales, l'existence de ces tailleurs est ainsi alliée à un imaginaire historique. Elle le fait pour qui souhaite effectuer, au terme de la lecture, une partie du travail de l'historien. Je n'ai pas pu me lire. La simple sélection effectuée sur des existants passés, dont les tailleurs, qui se reconnaît à l'exercice usuel et admis du discernement en vertu duquel des jugements d'importance s'accomplissent en principe, ne fait pas l'histoire. Pour la faire, il faut qu'elle trouve son prolongement par le récit, et un récit même imaginaire, un récit donc qui l'explique et justifie la dite sélection. Ce principe se vérifie une fois encore au moment où Paul Venn nous dit que l'histoire est la fille du récit, ou que Michel Lagny prétend qu'un récit qui n'explique pas ses présupposés cède la place à l'histoire-problème. Pour tenter de s'expliquer l'exigence de faire appel à l'imaginaire qui permet d'intelliger ou de comprendre les choses du monde, convoquant, encore une fois, Jean-Paul Sartre, encore une fois, parce qu'on le fait par automatisme aussitôt qu'il est question d'imaginaire, tout imaginaire, paraît, dit-il, sur fond de monde, mais réciproquement, toute appréhension du réel comme monde implique un dépassement caché ou avoué vers l'imaginaire. Toute conscience du monde appelle et motive une conscience imagante comme saisie du sens particulier de la situation. N'étant pas associée à la stricte vérité, l'imaginaire qui fait image, c'est-à-dire qui constitue une image par lui-même et en fait, est susceptible de viser le monde, d'aller au-delà, de permettre de le mieux saisir et d'en témoigner. Il le fait de la même manière que la mémoire, puisque chacun sait qu'elle n'est pas alliée à la vérité. La mémoire est oublieuse, sujette à interprétation psychologisante, socialisante, historicisante. Donc l'intervention de cette conscience imageante qui offre à l'apparition des images et les soumet à matérialisation est alliée à des pratiques intermédiales variées et multiples. Dessin, peinture, photographie, film, texte. Bien des objets de la vie quotidienne risquent ainsi de devenir des artefacts à la condition qu'ils reçoivent le sacre mémoriel ou que certains grands ou petits historiens leur confèrent, non sans faire appel à l'imagination, et à la condition que la conscience imageante y participe, une valeur artefactuelle. L'exercice de discernement auquel les valeurs historistes exige d'être elle-même soumise, constitue ainsi la première opération de la mise en intrigue nécessaire à l'écriture de l'histoire. Elle agit au moment de sélectionner, de retenir des événements, faits, objets ou fonctions susceptibles de participer à ou, ce qui paraît plus important, de participer de son écriture. Ce premier passage à l'écriture de l'écriture, ce premier passage à l'écriture de l'écriture pourrait correspondre à la préfiguration telle que nous l'enseigne Paul Ricoeur. Même en acceptant pour un temps le caractère temporel qui constitue la figure principale de la... Celle-là est longue. De l'exploration du récit historique à laquelle il s'est consacré dans les trois tomes bien connus de Temps et récit, on peut en effet penser que le discernement participe d'un tri parmi le monde et ses objets, êtres et choses. La composition de l'intrigue est ainsi enracinée dans une pré-compréhension du monde de l'action et de ses structures intelligibles, dont font partie certains objets au caractère artefactuel, les archives, les images, les textes. Paul Venn formule un état de pensée à peu près parenté à ce que nous venons de rappeler en insistant sur l'exercice de discernement dont l'histoire dépend. Les historiens sont, dit-il, souvent tentés de détacher sur le fond homogène d'interactions de substance qui constitue l'histoire des espèces de cadres qui expliqueraient le devenir historique qui le commanderait en dernier ressort, ou même qui le causerait sans être causé en retour. Nous aimerions nous arrêter un temps sur cette idée de cadre, non seulement parce que ce dernier semble en lien avec l'appareil photographique et les études qui l'ont considéré, mais parce qu'il implique la perception, soit la sélection, parmi un ensemble d'événements causés et de relations causales, nous dirait Paul Venn, ou le discernement et le montage qui s'inscrit dans leur prolongement. Notons ici que la comparaison depuis la photographie vers la perception qu'elle contient, permet d'enrichir la compréhension de l'efficace de la photographie dans la mesure où une opération de discernement est à son origine. L'effet conjugué de la perception et du discernement, grâce auquel certaines choses du monde sont soumises à sélection, est bien ce qui agit au profit de la photographie. Comme en histoire, la perception et le discernement y agissent en effet comme des opérateurs de marquage, de découpage, de montage et ultimement de traçabilité. Le marquage est en lien avec les objets du monde. C'est la raison pour laquelle il est prétendu ici qu'ils sont assortis à des formes d'écriture, qu'ils sont, qu'ils génèrent, qu'ils rendent possible. Ces objets sont réputés avoir été soumis à des ouvragements ou, pour définir ce dernier terme, à une intervention humaine effectuée sur un support qui permet de disposer d'une surface. C'est le terme dispositif qui vient d'être défini. À quelque genre ou espèce qu'ils appartiennent, la toile, le dessin, la photographie, le film, s'accordent à des ouvragements. Ce sont des matériaux œuvrés qui risquent d'acquérir avec le passage des années un caractère artefactuel et, en conséquence, d'être soumis à une autre écriture, à une autre sémiotique que celle d'origine. Le découpage force à considérer le moment de bascule entre la scène phénoménologique, d'où le contenu de l'image est puisé ou dont l'écrivain s'inspire, à la scène sémiotique qui est son fait ou constitue en un sens son assomption. Le montage correspond dans notre esprit à ce que l'image, toutes les images, font littéralement monter à l'intérieur de leur cadre. Et que font-elles monter si ce n'est une perception à laquelle ni la mémoire, ni l'imaginaire ou la conscience imageante ne sont étrangers? Cette perception qui aboutit au sens ne se conçoit que relativement à l'avant ou à l'après de l'image. Elle est autrement dit conséquente. Elle inclut une idée, une idéologie, une logique. Elle est le fruit, en effet, d'une logique représentationnelle. Cette dernière induit, ne manque jamais d'induire, l'exercice de discernement. La traçabilité concerne l'ensemble de ces critères. Elle a trait, insistons-y, au marquage que constitue l'ouvragement, au découpage, si l'on veut, d'une scène phénoménologique en prévision d'une scène sémiotique, et enfin au montage, c'est-à-dire à la montée du sens ou de l'idéologie dans et par l'image. La traçabilité de l'histoire et le sacre mémoriel en histoire dépendent de cet ensemble. Avant de mettre en évidence les filiations nécessaires ou l'interdépendance qui existe entre la mémoire et l'imaginaire en histoire, nous aimerions faire appel à un exemple filmique. Il a pour titre « Images du monde et inscriptions de la guerre ». Il a été réalisé par Farocchi en 1988. Il inclut des dessins, des textes, des photographies, il reste 2 minutes. Voici le film.
Bauer hatte die Aufgabe, die Fassade des Doms zu vermaßen. Um die Kosten für ein Gerüst zu sparen, fuhr mit einem am Flaschenzug hängenden Korb an der Fassade entlang, die ihn die Fensterputzer benutzen. 1858 in Wetzlar, als er eines Abends von Dieser Gedanke, der die persönliche Mühe und Gefahr beim Aufmessen von Bauwerken ausschloss, war der Vater des Messbildverfahrens. Die Idee, aus Fotografien Messwerte zu gewinnen, kam Meidenbauer, nachdem er in Todesgefahr geschwebt hatte. Das soll heißen, es ist gefährlich, sich leiblich am Schauplatz aufzuhalten. Sicherer, man nimmt ein Bild.
Jusqu'à maintenant, le film me semble peu enclin à faire le récit de l'histoire. Les images que nous venons de voir témoignent d'un travail plus illustratif ou apparemment plus anecdotique que pleinement significatif du point de vue historique. participant de l'anecdotique, ses propos et les images qui les accompagnent, amorce toutefois le travail de discernement qui va suivre et le constitue, car la photogrammétrie a permis de constater en retard l'existence des camps de concentration. Mais avant, le réalisateur donne à voir des images de femmes algériennes qui, exceptionnellement dépourvues de leur voile, au profit de la confection de cartes d'identité. Les voici.
1960 in Algérien, ein zum Militär eingezogener Soldat, Marc Garanger, fotografiert die Gesichter von Frauen, die noch nie fotografiert wurden. Sie sollen Identitätskarten bekommen. Der Mund kann es nicht gewohnt sein, angeschaut zu werden. Ein Mund, um etwas schmecken zu können, muss seinem Gegenstand nahe kommen. Das Auge, um sehen zu können, es kann seinem Gegenstand fernbleiben.
Quel rapport entre ces visages de femmes ainsi dévoilés et la photogrammétrie? La perception, le regard appareillé de manière photographique dans les deux exemples proposés par le film, sont associés à la traçabilité et à la reconnaissance. La reconnaissance du contenu des photographies aériennes ou des tirages obtenus par photogrammétrie est rétroactive, tandis que la seconde, la reconnaissance de ces femmes dévoilées, a été obtenue par la force, car leur visage est passé du domaine privé au domaine public. Voici la traçabilité de l'histoire.
Die Luftaufklärung. In Mitteleuropa ist der Himmel meistens bedeckt. Klare Sicht nur an rund 30 Tagen im Jahr. Am 4. April 1944 war der Himmel wolkenlos. Vorausgegangene Regenfälle hatten den Staub in der Luft gebunden. Amerikanische Flugzeuge waren in Foggia, Italien gestartet und flogen Ziele in Schlesien an. Fabriken für synthetisches Benzin und Gummi, Buna. Beim anderen liegt die Industrie, das Lager. Erst 1977 gingen zwei Angestellte der CIA daran, die Luftaufnahmen von Auschwitz im Archiv zu suchen und auszuwerten. Erst 33 Jahre später wurden die Wörter eingeschrieben. Die Wörter Wachturm und Haus des Kommandanten und Erfassungsstelle und Hauptquartier und Verwaltung und Zaun und Hinrichtungswand und Block 11. Und wurde das Wort Gaskammer eingeschrieben.
Bon, mais j'en suis à la conclusion. J'attends un petit papier, là. Conclusion, mais en tout cas, bon, bref, je fais court. Puis ce commentaire parvient au spectateur par l'entremise d'une voix off. La photographie qui conserve, la bombe qui détruit. Voilà notamment le genre de rapport que le film établit. Pour le faire, il est passé de l'anecdotique au technologique, jusqu'à l'historique, de l'artefactuel au factuel, les camps de la mort ont existé. L'histoire est, on le voit, réassortie au développement des technologies qui ont mis à disposition des supports, des photographies aériennes par exemple, des surfaces, des dispositifs d'écriture. Ces supports ont été promis à un devenir, ils ont constitué une écriture, de l'écriture. J'aime assez l'idée de l'écriture, dans mesure où ce que le film montre, c'est bien qu'il y a de l'écriture partout, puis l'écriture de l'histoire partout. Puis ce qu'on fait, en fait, c'est de réaménager des écritures, de former d'autres écritures. Avant, on avait un terme, on parlait aisément, puis on comprenait ce que ça voulait dire. On parlait de la lecture. Là, il me semble qu'on en est à parler de l'écriture, tant on récupère des objets, tant on hybride, tant on, on crée des systèmes qui sont mutants. Donc, la fin de ma communication portait sur le travail que Bergson a fait et qui était consacré, tel que le titre de son ouvrage l'indique, à la matière et à la mémoire. Et ce que j'ai essayé de faire à l'aide de sa pensée, c'est de restaurer ce dont il ne parle pas, c'est-à-dire l'imaginaire, parce que ce qui coud, comme la couture, là, ce qui coud l'ouvrage de Bergson, c'est quand on y regarde de plus près, moins la mémoire que l'imaginaire. Puis lui-même, lorsqu'on ouvre la première page de Matière et mémoire, il renseigne le lecteur en disant « la mémoire n'est un exemple par rapport, n'est qu'un exemple par rapport à l'esprit ». Or, tout le reste de son document porte en fait sur l'image, la capacité, le pouvoir de faire des images à partir d'un centre d'action lui-même, hein, là on est dans le cinéma, à partir d'un centre d'action et de la pensée. On est dans le mouvement et on est dans la conscience imagante. C'est ce que je voulais montrer.